Ce qu'on vous propose là, c'est un peu de s'interroger sur les questions de professionnalité. C'est-à-dire qu'au travers des ateliers et des questionnaires qui ont été remplis par certains ou certaines, transparaissent des questions de professionnalité enseignante, puisqu'il y a une grande partie d'enseignants dans l'Assemblée, hein, dans les stages, des questions de formation des enseignants, mais aussi de professionnalité des formateurs, des questions de professionnalité dans les CASNAV et des questions de professionnalité pour les cadres de l'éducation. Hein, c'est le document que vous avez. Alors, ça se veut ni un document exhaustif, ni c'est un document pour que nous puissions travailler ensemble. Hein. Donc, mais c'est le résultat de choses qui émanent et des ateliers d'hier. Moi, j'ai pas eu le retour de tous les ateliers, mais en tout cas, les deux ateliers enseignants ont fait un retour, et puis l'atelier dit formateur et CASNAV. Donc, et dans les formulations des questions, il y a des choses qui ont déjà été traversées dans le stage. C'est un moyen aussi pour nous de voir ce qui, au travers de ces questionnements, ce que nous avons traité d'une manière ou d'une autre, et puis de poursuivre notre réflexion, peut-être sur des points forts. Donc, alors, qu'est-ce qu'un parcours vers la classe ordinaire? Quels sont les processus en œuvre? Alors là, il a été rédigé ce matin, le questionnaire. On ne pouvait pas mieux penser que par rapport à la réponse qui a été et les discussions de ce matin. Les parcours spécifiques restent à inventer. Hein, des enseignants. L'enseignant de français langue de scolarisation est-il aussi un enseignant de classe ordinaire? En quoi l'enseignant de CLIN-CLA, français langue de scolarisation, est légitime pour accompagner l'enseignant de classe ordinaire? Sur les questions qui nous occupent, bien sûr. Hein. Entre professionnalité et militantisme, quelle est la posture de l'enseignant de CLIN-CLA, français langue de scolarisation? Travail en réseau et isolement professionnel, quel dispositif pour les enseignants de CLIN-CLA FLS? Quand on dit « ça marche bien », on l'a entendu, hein, parfois au nom des dispositifs, on dit « ça marche bien ». Mais qu'est-ce qui marche bien? C'est le fait que les élèves ont une place dans un établissement et qu'ils sont scolarisés, ou c'est le fait que les élèves apprennent et progressent? La nécessité d'appropriation des logiques des dispositifs institutionnels par les enseignants pour construire les parcours d'élèves. Logique en œuvre, ce que j'avais évoqué tout à l'heure, hein, temps 1, positionnement des élèves, temps 2, apprentissage de la langue de scolarisation, temps 3, reprise des apprentissages. Quid de la continuité des apprentissages des élèves dans les disciplines? Et entre le déclaratif et les processus réels mis en œuvre. Vous avez dit évaluation différenciée, mais comment et où se forme-t-on à l'évaluation différenciée? Comment gérer l'hétérogénéité des scolarités antérieures, hétérogénéité des cultures scolaires de provenance? Enseigner à DNSA, quel parcours d'apprentissage, et l'application de la circulaire 2012. Voilà une série de préoccupations des professionnels que vous êtes qui ont été évoquées lors des ateliers ou, à divers, ou dans les questionnaires. Alors, des questions ont été aussi posées sur des questions de formation des enseignants. Il n'existe pas pour les enseignants de FLS, comme pour les enseignants, il n'existe pas de formation spécifique pour les enseignants de FLS, comme pour les enseignants de classe ordinaire. C'est-à-dire, comme le com, c'est pour les deux. Il n'y a pas de formation à l'heure actuelle, ni pour l'un ni pour l'autre, hein, sur ces questions-là. Langue et exclusion, cela concerne-t-il que les élèves allophones? Est-ce que c'est une problématique spécifique à cette catégorie d'élèves? Les formateurs de FLS sont-ils légitimes pour former à la maîtrise de la langue en général? Connaître l'enfant pour enseigner l'élève. Le formateur CASNAV est-il aussi un enseignant expert? Ah, pardon, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'un formateur CASNAVE? Comment est-il recruté? Le formateur CASNAVE est-il aussi un enseignant expert? Qu'est-ce qu'une visite conseil? Les formations efficientes connues et expérimentées, égales, c'est un peu égal, c'est ce qui a été dit dans un groupe. D'une part, l'auto-formation et la recherche-action. Formateur CASNAVE, toute son énergie mobilisée sur le fonctionnement des dispositifs et des solutions de scolarisation pour les ENA. Quid de la formation? Après, dans les CASNAV, la faisabilité d'un suivi de cohorte. Entre CASNAV et éducation prioritaire, quelle coordination? Et pour les cadres, de la classe d'accueil à l'établissement d'accueil, implanter un module FLE FLS dans un établissement, travail en partenariat au niveau d'un bassin, d'une académie. Voilà, on retrouve un peu les préoccupations professionnelles des différents niveaux que vous représentez ici. Ce n'est pas exhaustif, vous pourrez rajouter. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on reste sur les questions peut-être de professionnalité enseignante. On ne peut pas tout traiter, et même dans ce qui est traité, professionnalité enseignante, de quelles questions on s'empare qui seraient prioritaires? Oui. J'espère que tu n'as pas toutes les réponses.
Si.
Tu as une réponse englobante.
Non. Très sérieusement, il y a des réponses quand même. Celles qui sont fermes, on peut les donner. Les autres, ce sont de vraies questions.
Voilà. Alors, dans les questions et les réponses aussi, l'idée, c'est que... c'est chacun de là où il travaille, les questions qui se posent et les difficultés auxquelles ils se sont confrontés, et avec l'idée d'être dans un processus qui va lui permettre de construire sa professionnalité et ses référentiels de compétences par rapport à ses dispositifs spécifiques. Alors, Maryse a envie de réagir tout de suite.
Non, pas forcément pour tuer le débat le plus vite possible, mais je veux dire, il y a quand même des réponses strictement et niaisement institutionnelles. Bon. Par exemple, l'enseignant de SVLS est-il aussi un enseignant de classe ordinaire? Le BO y répond parfaitement en rappelant qu'il est absolument souhaitable et préférable que l'enseignant qui intervient en UP2A conserve, si c'est un enseignant du second degré, une classe ordinaire dans sa discipline d'origine, qui est souvent le français, bien évidemment. Sur la question de la professionnalité, je rappelle l'existence de la certification complémentaire FLE-FLS qui rend l'enseignant légitime institutionnellement, donc qui n'est pas de vertu magique, mais enfin qui a le mérite d'exister dans le système et de flécher un certain nombre de choses. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bon, je vous mets en garde aussi contre ce que je disais au départ, c'est-à-dire les effets d'extrapolation au national des situations locales. J'ai toujours un peu de mal à entendre, vous imaginez comme responsable de CASNAV, qu'il n'existerait pas de formation alors que je passe mon temps à essayer d'en mettre en place. Faisons attention quand même à la projection des effets locaux. Alors ça ne veut pas dire que là où vous êtes, ça n'est pas un besoin hurlant et tout à fait prioritaire. On entend bien. Voilà. Ça sera tout dans un premier temps.
Est-ce que je peux juste soulever le problème de la certification FLS? C'est vrai que c'est une vraie avancée dans la reconnaissance des compétences des enseignants de FLE FLS. Le problème, c'est que dans les académies, il n'y a pas de formation.
Ça dépend. Tu peux pas dire.
Oui. Alors.
Dans certaines académies, il en existe. Pardonnez-moi.
Oui. Exactement. Donc, dans certaines académies, c'est vrai que le certain est important. Il n'y a pas de formation. C'est une reconnaissance a posteriori. C'est-à-dire que c'est quand les personnes ont déjà une expérience d'enseignant ou quand ils ont parallèlement conduit des études universitaires sur le FLE, sur le FLS, qu'on reconnaît leurs compétences a posteriori. Pour le moment, dans la plupart, je pense que c'est la plupart quand même, des académies, il n'y a pas de formation préalable à la certification.
Parce qu'il y a une raison logique, c'est que la certification sanctionne non seulement des connaissances universitaires, mais sinon c'est pas la peine qu'il y ait une certification interne à l'éducation nationale, elle sanctionne également une expérience réussie avec des élèves. Donc, par définition, il faut bien l'avoir conduite ou menée. Alors, réussie, pas au sens, je veux dire, au sens simplement de l'analyse réflexive, hein, même si l'expérience est un somptueux ratage, si l'enseignant est en mesure de comprendre ce qui s'est passé et de l'expliquer finement, tout va bien. Hein, on est bien sur ces logiques-là, mais c'est bien une logique de validation professionnelle. Ça n'est pas purement universitaire. Je vous rappelle aussi que beaucoup d'enseignants de langue, qui ne sont pas des enseignants de lettres, présentent la certification complémentaire.
Normalement, c'est Régis. Non, mais ici, c'est nous. Okay. Donc, ce que... Pardon, je n'ai pas entendu. Non.
Oui. Mmh. Tu dis en doc, c'est ça?
Oui. Mmh. Alors, une chose aussi, c'est que par rapport à l'espace où on est, c'est vrai que, et c'est pour ça qu'on est là, hein, c'est la circulaire qui est parue et qui a motivé un peu ce temps de travail que nous avons aménagé ici, c'est de dire que la circulaire indique que l'enseignant est aussi un enseignant de classe ordinaire. Maintenant, en termes de professionnalité, ou de posture professionnelle, les débats de ce matin reflétaient un peu la tension entre l'enseignant responsable du dispositif et l'enseignant de classe ordinaire. C'est-à-dire qu'on était dans cette tension où est-on encore un enseignant de classe ordinaire, même si on donne des cours, dans l'équipe dans laquelle on œuvre. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on partage avec les collègues? Et ça, c'est une question de professionnalité par rapport aussi à nos positionnements par rapport aux élèves, mais par rapport à notre propre situation dans les établissements. Hein, je crois que c'est une vraie question. En ayant effectivement l'impulsion de la circulaire ou la notification de la circulaire qui dit qu'on est des enseignants de classe ordinaire. Voilà. Michael, tu voulais réagir ?
Je voudrais aussi entendre l'idée d'enseignant de classe ordinaire dans un autre sens et en rapprochant ça de la partie logique mise en œuvre, tant un positionnement des élèves, tant deux apprentissage de la langue de scolarisation et tant trois reprise des apprentissages. Ce suivi linguistique m'a toujours paru être une des parties essentielles du travail sur une UPE2A. Et la nécessité de reprendre avec les élèves ce qui s'était fait dans les disciplines de la classe ordinaire lors du retour sur la classe. Et alors qui on mettait au travail derrière ces élèves? Notre choix a souvent été de confier à des assistants d'éducation, mais surtout en fait à des professeurs issus du dispositif. Et dans ce sens-là, oui, il reste pleinement un enseignant de classe ordinaire parce que il y a un moment, on regarde la discipline des collègues, on la comprend. On accompagne des élèves sur d'autres disciplines. Et puis, certains le savent, hein, quand on a travaillé longtemps dans une UPE2A ou dans une CLA, on connaît tout le programme d'un collège et on connaît toutes les disciplines à force de suivre les gamins et de voir les obstacles. Ça permet aussi d'entendre les modes de conservation des cours, d'entendre les différents fonctionnements des collègues et des disciplines et d'être en fait au plus près de l'enseignement qui est dispensé de façon générale sur un collège par exemple. Mais je pense que la remarque est absolument valable sur le premier degré aussi, hein. Bah, le fait que vous sachiez ce que les collègues font dans la classe ordinaire de CM2 quand vous y incluez vos élèves et quand ils reviennent vous poser des questions.
Bon, un petit exemple comme ça, justement, nous, quand on fait les formations sur l'Académie de Paris, en tout cas premier degré, quand on travaille sur les problèmes spécifiques de maîtrise de la langue, on n'utilise pas que, on montre pas que des outils ou des démarches FLS, on utilise beaucoup d'outils de la didactique FLM. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que si les collègues dites des classes ordinaires, j'ai un peu de mal avec ça, entendent mal ou ont des difficultés à accueillir les EANA, ou alors enseigner, c'est ce qui les démunit en fait, c'est le manque de formation tout court. C'est pas le manque de formation à FLS ou en FLE, c'est le manque de formation tout court. Ils ont des outils à disposition, ils ne les connaissent pas, on ne les forme pas à les utiliser, on ne leur indique pas des pratiques qui pourraient effectivement fonctionner, etc. Ils n'ont pas de formation, point, barre, à la base. Et donc voilà, donc nous effectivement quand on travaille sur cet angle maîtrise de la langue, puisque c'est notre expertise entre guillemets, on avance des choses dans ce domaine. Et du coup on avance aussi des choses par extension dans les disciplines, puisque quand on fait de la langue, on en fait aussi en maths, en histoire géo, en EPS, etc. etc.
Moi je voudrais partager mon expérience du coup, puisque c'est un peu la question qui est posée. Depuis un an et demi, deux ans, on va dire, j'interviens de plus en plus dans la classe de l'élève. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire parce que je n'y croyais pas, je ne me sentais pas. Et en fait, c'est quelque chose qui marche très, très bien.
Est-ce qu'on peut creuser un petit peu, est-ce qu'il s'agit de co-intervention avec l'enseignant de la classe, ou est-ce qu'il s'agit d'être assis à côté de Léana pour travailler avec lui pendant que la classe se déroule?
Alors, pour l'instant, effectivement,
Et quid de votre statut par rapport à l'ensemble des élèves de la classe?
Tout à fait. Alors, pour l'instant, effectivement, je suis à côté de l'élève et je l'aide dans son travail quotidien par rapport à ce qui est demandé dans la classe. Mais je trouve déjà cette position extraordinaire parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui rechignent à me donner leurs élèves. Et là, je suis carrément dans la classe. Et rien que cette position-là, pour moi, elle est déjà magique parce que c'est déjà une entrée. Effectivement, j'aimerais ne pas me contenter de ça. Et j'aimerais aller plus loin, mais je commence comme ça. Et dans l'année prochaine, je leur proposerai sûrement un travail en coopération, effectivement. Et c'était une manière de rentrer doucement dans la classe sans leur faire peur.
Moi, par rapport à une expérience personnelle que j'ai eue, c'était aussi prendre la classe pour que l'enseignant s'occupe des élèves, pas que de l'élève Anna, mais des élèves auxquels il a envie de s'approcher. Alors, il ne peut pas le faire quand il est...
Effectivement, j'ai oublié une étape. L'année dernière, j'ai commencé à prendre la classe en demi-classe. Et je faisais des lectures de contes, des choses qu'elles n'avaient pas le temps de faire, parce qu'elles sont tellement ancrées dans les objectifs académiques, on va dire. Et donc, en demi-classe, je prenais tous les élèves indifféremment de qu'ils soient INAF, enfants du voyage... Et elle, ça lui permettrait de travailler effectivement en demi-classe. Ça a été la première étape. Je m'en suis pas rendu compte, mais effectivement, c'était ma première entrée dans la classe. Oui.
Si je peux me permettre de réagir là-dessus, il y avait eu une circulaire de François Bayrou il y a de très nombreuses années qui invitait dans certains lieux à grande mixité, diversité langagière et linguistique et culturelle, notamment maternelle, mais pas seulement, à travailler sur, selon une didactique du français, langue seconde ou un peu plurilingue. Alors, ça ne se disait pas comme ça. Et c'est vrai que certains des collègues de l'époque sont intervenus principalement en maternelle, en grande section de maternelle, où il ne pouvait pas y avoir d'accompagnement individuel ou un petit groupe, proposant sur le mode de la didactique du FLS des séances, et ça s'est continué au niveau du cycle 2 jusqu'au CE1 voire au CE2, où l'enseignant spécifique de FLS alors venait dans la classe ou prenait des groupes d'élèves de la classe et non pas sortait les nouveaux arrivants de chaque classe pour faire un groupe de besoin, mais un groupe de la classe autour de didactiques spécifiques du FLS. Alors, c'était en ZEP, dans une ZEP à très forte diversité linguistique et culturelle, où les problématiques des nouveaux arrivants rentraient en résonance avec la problématique d'autres enfants nés en France, peu scolarisés à l'école maternelle, et allophones, bien sûr, plurilingues aussi, mais pas toujours très à l'aise avec la maîtrise de la langue française, et notamment la maîtrise de la langue du français comme langue de scolarisation. Et ce travail-là a été arrêté par manque de disponibilité des enseignants spécifiques, hein, mais ça a été un vrai succès, à la fois en termes d'opérationnalité de la collaboration entre enseignants lambda et enseignants de FLS, qui ont compris aussi ce que faisait l'enseignant de FLS, Ce qui n'est pas évident, parce que c'est vrai, on le disait, tu fais jouer tes élèves, tu les fais chanter, tu les fais lire un truc, et puis en plus tu te contentes de ce qu'ils font, mais tu te rends pas compte par rapport au niveau de la classe la différence. Enfin bon, c'est bien joli qu'ils arrivent à lire un peu, mais bon, moi je suis en CM1, il y a ça, on leur donne des textes comme ça, tu te rends bien compte que, oui, je me rends bien compte que, mais viens voir aussi ce que je fais, et tu verras que c'est, il y a une logique, une progression, une pensée didactiser, enfin quelque chose d'un peu sérieux derrière. Et de ce point de vue-là, alors, pour les élèves, c'était hyper intéressant, et vraiment, ça a été très intéressant d'un point de vue collaboratif.
Je voudrais aussi faire un point, un lien entre deux autres points qui sont entre professionnalité, militantisme, quelle posture de l'enseignant, et appropriation des logiques des dispositifs institutionnels par les enseignants pour construire des parcours d'élèves. Les expériences que vous relatez sont importantes, mais elles relèvent aussi de quelque chose qui est laissé à l'appréciation de l'enseignant ou sur un texte ancien. Et on essaie comme ça donc des choses importantes d'aller poser dans une classe de physique pour regarder ce que c'est qu'un cours. On oublie qu'on est devenu expert du système et ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé à l'école finalement et qu'on ne sait pas ce que c'est effectivement l'école vue de l'autre côté, quoi, assis avec des élèves en train d'écouter cette langue-là. Je crois que la vertu principale, elle est là, elle est de regarder la langue en action et de s'y intéresser et de venir avec cet axe-là. La légitimité, donc, de l'enseignant de FLS qui est dans cette démarche, elle est déjà posée par sa compétence professionnelle sur, alors à travers une certification ou pas, mais en tout cas à réfléchir cette question de langue en action dans la classe ordinaire, à l'observer et éventuellement à la commenter. Ce qui pose quand même un vrai problème, parce que on peut pas être le formateur de ses pairs, vous le savez très bien, on peut pas être le formateur de ses collègues dans un collège ou dans une école. Donc on se met dans des positions difficiles aussi en allant conseiller les collègues. Donc il est très important que la légitimité déjà du coordonnateur ou du professeur FLS soit reconnue, et en particulier, comme le précise la circulaire, que des lettres de mission soient mises en place sur la coordination d'une UPE2A, que cette légitimité soit reconnue par un chef d'établissement qui inscrit cette question dans un projet d'établissement, que ce projet d'établissement soit relié à d'autres textes prévus par les circulaires et qui font avancer les dispositifs institutionnels dans son ensemble. Importance aussi, donc, que le coordonnateur s'empare de cette dimension méta ou de la dimension au-dessus et puisse intervenir dessus aussi comme expert et dire bon voilà, je vais faire ça, mon besoin technique est là, le besoin de l'élève est là, j'ai besoin moi d'apprendre ça et j'ai besoin d'accompagner mon élève à cet endroit-là, mais j'ai aussi la légitimité de ma lettre de mission, du chef d'établissement qui organise les choses, et puis derrière d'un projet peut-être global formulé par un CASNAV qui permette de réaliser ce genre d'expérimentation, y compris en recourant à l'article 34 qui est tout à fait ouvert à ce genre de choses.
Oui, c'était pour rebondir sur ce que disait Cécile et en même temps pour répondre à la collègue là, au sujet de la co-intervention et au sujet de bon, tout ça. Il se trouve que j'ai bénéficié de ce dispositif. Moi, pendant 7 ans, j'étais à Vitry-sur-Seine. Ça a duré 7 ans, cette expérimentation, avec cette circulaire. Et je me baladais, entre guillemets, du cycle 1 au cycle 2. Et dans une ZEP que certains peut-être connaissent sans y avoir été, c'est la cité Balzac, là où on a brûlé Sohan dans le local poubelle. Voilà. Et donc, effectivement, tout ça, ça a été possible. Moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure, parce que quand ce poste a démarré, on n'avait rien, c'était ex nihilo. Et je travaillais effectivement uniquement sur le français comme langue seconde. Et c'est vrai que ce n'a été possible parce qu'à un moment donné, il y a eu un gros, gros travail de préparation avant des projets d'école. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de travail d'équipe, s'il n'y a pas, évidemment, à un moment donné, tous les acteurs du système, et pas seulement les enseignants, hein, en maternelle, les ASEM sont très importants, et les agents de service aussi, et les RAZ, enfin, ce qu'il en reste, aujourd'hui, etc. Eh bien, si à un moment donné, tous ces gens-là ne s'assoient pas autour de la table pour décider que ce projet sera un projet d'école et que ce sera inscrit dans un volet du projet d'école avec des fiches d'action spécifiques et que tout ça soit écrit noir sur blanc et qu'on voit qui fait quoi, à quel moment de l'année, sur quelle période, sur quelle durée, avec quel contenu, quels objectifs, tout ça ne perdure pas, et souvent ça ne s'assoit que du coup sur la bonne volonté des uns et des autres, donc on le fait de manière ponctuelle, locale, ça n'aboutit pas à quelque chose. Et pour rebondir sur ce que disait Michaël, quand on fait ça, du coup, la légitimité de l'expert, entre guillemets, FLS, qui forme, entre guillemets, les autres, ne se pose plus. Pourquoi elle se pose plus? Parce qu'on n'est plus du tout expert en recul par rapport à autre chose. On est partenaire, on est tous inscrits dans le même projet et on fait tous ce qu'on peut au niveau où on peut. C'est comme quand on fait des groupes de pédagogie, quand on fait de la pédagogie différenciée dans la classe, que chacun a la même tâche, mais que chacun ne réalise pas la même tâche de la même manière avec les mêmes objectifs. Et ben, c'est exactement pareil. Et ça ne fonctionne qu'à cette condition-là. Et c'est vrai que ce mot-là, travail d'équipe, depuis hier, je ne l'ai pas entendu, ni aujourd'hui. Et
c'est aujourd'hui.
Voilà. Et c'est, pour moi, c'est vraiment la base, c'est fondamental. Et du coup, c'est aussi le lieu où on peut former. C'est-à-dire, c'est un autre lieu possible. Il n'y a pas qu'effectivement le CASNAV qui propose des formations. Il n'y a pas que, en théorie, le SPE, on dit, non, l'UFM encore ? Le SPE, ça y est. Enfin bref, ce qui est censé nous servir de centre de formation pour les enseignants, en tout cas, où on forme. Il y a aussi dans ces pratiques-là, qui sont des pratiques de terrain, qui sont des pratiques pas seulement locales, parce que du coup, elles peuvent aller très très loin quand même. Moi, je travaillais quand même sur 13 écoles. Donc, mine de rien, au début, j'ai commencé avec 2, puis 3, et au bout des 7 ans, j'avais fini par aboutir à 13 écoles. Et c'était un peu comme le système de Mission Impossible, vous savez, cette cassette s'autodétruira. Eh bien, au bout des 7 ans, je me suis autodétruite parce que, du coup, ce qui avait été mis en place dans les écoles, parce qu'il y avait aussi une volonté de maintenir des personnels qui s'étaient inscrits dans ce projet, qui voulaient le poursuivre, eh bien, moi, j'étais plus utile. Donc, je suis partie ailleurs. Et en fait, c'était quelque chose, effectivement, qui a très, très bien fonctionné.
En ce qui concerne le réseau, le travail d'équipe et l'isolement professionnel, qui est aussi un des points soulevés dans votre questionnement, puisque ces questions se rejoignent, il y a à avoir en tête, et quand on travaille dans un CASNAV, on l'a très présent à l'esprit, il y a à avoir en tête l'isolement professionnel des collègues et le fait qu'ils sont seuls à porter, très souvent, fondamentalement, la question de la langue en tant que langue vivante à l'intérieur d'un établissement, que le reste de l'équipe est expert, mais sur tout à fait autre chose, et en particulier ce que nous avons tous en commun, je viens en fait au cœur du poulet aussi assez vite, mais ce que nous avons tous en commun, c'est d'être des experts, et avant tout d'une certaine forme de la langue qu'on appelle la langue française et qui est sa forme écrite, ce qui fait que vous êtes là à m'écouter et moi à parler, mais fondamentalement notre expertise de métier qui nous réunit tous, elle est là et pas ailleurs. Mais quand on porte un angle différent à l'intérieur d'une équipe, c'est-à-dire la question du français enseigné comme langue vivante, on affronte des experts tout autour de nous qui nous disent non, il a pas le niveau, non, pourquoi tu le mets dans mon cours. Donc d'où l'importance de travailler à la formation d'équipes de terrain, par école, par collège, par lycée professionnel, sur cette question spécifique de la langue et de la langue française telle qu'elle se décline dans l'institution scolaire républicaine, telle qu'elle est pensée. Et il est important surtout d'avoir nous en tête, sur ayant l'initiative ou la responsabilité de faire vivre des réseaux d'enseignants, mais aussi des réseaux de cadres, des réseaux d'expertise, des réseaux interacadémiques, évidemment. Il est de notre mission d'avoir en tête cette question de l'isolement professionnel, parce que non seulement on peut pas être le formateur de ses pairs si on n'est pas légitimé, c'est-à-dire si on n'a pas une expertise nette attestée par une inspection pédagogique. Et d'un autre côté, on vit aussi au contact de publics qui sont eux-mêmes hyper marginalisés, non seulement dans l'institution scolaire, mais dans l'ensemble de la société. Et vous connaissez l'effet miroir. Alors, soit on les voit pas, c'est l'effet plafond de verre, mais il y a aussi l'effet miroir, c'est-à-dire à un moment, on finit par vous demander, mais tu te bats tellement pour ces élèves, tu en fais partie. C'est-à-dire cette confusion, en fait, de l'enseignant avec son public, qui est aussi un phénomène extrêmement classique. Et donc ça, si vous voulez, quand vous portez cette question dans un établissement ordinaire, il faut absolument pas laisser les collègues isolés, d'où la responsabilité d'un CASNAV, de monter des réseaux et d'avoir une réflexion profonde sur l'ensemble du système, mais que l'enseignant aussi sur son terrain puisse bénéficier et de cet éclairage et de cette réflexion. On est la seule institution où tout le monde est parti de la base à un moment ou à un autre, mais ça ne veut pas dire qu'on est expert, par exemple, de cette question de la langue française en tant que langue vivante, en tant que dans le cadre d'une didactique du français comme langue vivante ou comme langue de scolarisation. Là, on n'est pas expert.
Moi, je vais... Bon, je ne sais pas si j'ai tout compris. J'ai envie de mettre un petit peu les pieds dans le plat quand même, parce que j'entends qu'il faut créer des réseaux. Voilà, oui, les midi.
Ne parlez de plat, cette heure-ci, madame, s'il vous plaît.
C'est-à-dire qu'on parle de réseaux, on parle d'expertise, on parle d'expertise en maîtrise de la langue. Quand nous, ici, on travaille avec des formateurs et des gens de terrain de l'éducation prioritaire, peut-être qu'il y en a qui feraient des bons sur leur chaise si on disait que qu'ils sont pas experts de maîtrise de la langue et qu'ils travaillent pas en réseau et qu'ils s'occupent pas des EANA. C'est-à-dire qu'il y a des lieux, comme disait Maryse, c'est pas partout. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des lieux où il y a des gens qui sont préoccupés, pas que pour les EANA, mais pour l'ensemble des élèves qui scolarisent, des problématiques de maîtrise de la langue. Et on est bien sur le même champ du français de langue scolarisation. Français langue de scolarisation, c'est pas une problématique. Quand Elisabeth Bautier s'empare de ces questions, elle en fait, et je dirais même, surtout pas une question des EANA. Elle fait une question de la parole pédagogique qui circule dans la classe, la parole de communication, etc., où l'EANA est une compétence, une composante de la problématique de l'ensemble de la classe face aux apprentissages. Je crois qu'aussi, Michael a son expérience et a son territoire où il n'y a peut-être pas beaucoup de réseaux éclairs. Mais la question...
On a ça quand même au magasin, je vous rassure.
Oui. Non, parce qu'il y a des choix. L'Académie de Grenoble a fait le choix d'avoir un seul réseau éclair, me semble-t-il. Après, la réalité...
C'est la centrale qui a étiqueté les réseaux éclairs. Les académies n'ont pas demandé de label.
Oui, mais par rapport à l'histoire. Ça s'est fait par rapport à une histoire. Et l'Académie de Grenoble, avant les éclairs et les rats en particulier, avait, à force marché, accepté qu'il y ait un rat. C'est pas l'enjeu de la discussion là. C'est de savoir comment on s'empare avec nos collègues de cette question, effectivement, dans les établissements, dans les écoles, en faire une question de formation, comme disait madame, du niveau du travail d'équipe. Quels sont les processus, les chemins à prendre en termes de professionnalité, c'est sur ce terrain-là que je suis, pas en termes de dispositif, par rapport à toutes ces questions, mais par rapport à d'autres. Moi, j'ai relevé, là, dans ce qui a été dit, donc référentiel de compétences d'un enseignant de FLS ordinaire pour la scolarisation des EANA, FLS et enseignant ordinaire. C'est pas le co-intervention et ou co-accompagnement. Didactique FLS et FLM, projet d'école, projet d'établissement, le travail d'équipe pédagogique, lieu de formation. Donc là, on est vraiment sur les terrains des établissements. Dans ce qui a été mis en discussion, en débat, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent à s'emparer ?
Très, très vite quand même, ce que j'avais dit à titre de propos liminaire, je veux dire... Certes, les élèves allophones arrivant nous intéressent, mais les CASNAV revendiquent, je me pose très tranquillement sur ce créneau-là, une légitimité à éclairer la question des élèves allophones en général, qu'ils soient ou non arrivants, nous importe très peu. Et nous travaillons en particulier dans les réseaux éclairs sur ces problématiques, c'est-à-dire quelles sont les lois didactiques préférables pour enseigner le français comme langue vivante seconde, Et ça concerne tous les élèves dont les langues familiales sont éloignées de la langue de l'école. Qu'il s'agisse du quart monde français ou francophone, c'est pas vraiment la question. C'est-à-dire nous revendiquons quand même de nous poser tranquillement sur la question de la langue de scolarisation dans les contextes disciplinaires. Hein.
J'aimerais revenir sur la question de l'établissement. C'est vrai que les formations qui fonctionnent, je l'ai dit hier, mais je le redis aujourd'hui, sont des formations qui travaillent sur l'ensemble du système de l'établissement. Tu le disais tout à l'heure, Claudine, ça concerne un petit peu tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a les aspects didactiques. Je pense que c'est pas là où on est le plus mal à l'aise, même si effectivement il y a des choses à faire. Je pense que là où on est vraiment très juste en termes de formation des acteurs, c'est sur la rencontre, sur la question interculturelle, sur l'accueil de la diversité, sur la manière dont on parle aux gens, qu'on parle aux parents, comment on parle aux enfants, comment on se situe là-dedans. Alors, je vais parvenir sur les dispositifs, j'en ai parlé. Cette manière-là de travailler sur l'ensemble des choses qui sont, je dis choses parce que je ne sais pas comment dire ça de manière plus précise, des choses qui sont en jeu quand on rencontre des familles qui sont allophones, des familles qui sont familières de l'école ou qui ne sont pas familières de l'école ou qui sont familières d'une autre école mais pas de l'école en France, et comment on s'adresse aux enfants. Moi, j'ai vu des enseignants s'adresser aux parents en leur parlant petit nègre. J'ai vu dans des équipes éducatives des éducateurs spécialisés s'adresser aux parents comme s'ils avaient 10 ans.
Oui. L'âge des gamins, en gros.
Alors, j'exagère pas. Enfin, j'exagère un peu. C'est-à-dire, je sors comme très signifiant quelque chose, mais probablement que vous avez tous vu ça. Enfin, moi, j'en aurais aussi une certaine propension. Hein. Je m'en rends sûrement pas très compte, mais probablement que dans une élocution un petit peu plus... Voilà. Alors, non, moi, je tutoie pas. Mais par ça contre, j'ai tendance à ralentir mon débit. Enfin bon, voilà, tellement qu'on me dit non mais arrête de les prendre pour des imbéciles. Je n'ai pas envie de les prendre pour des imbéciles, mais probablement que transpire dans ma manière de les accompagner une espèce de condescendance vraiment que je ne veux pas, mais que j'ai quand même. Bon ben voilà, c'est comme ça. Il faut y travailler. Mais je pense que la question du travail dans l'établissement est essentielle. À la fois sur plein de niveaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait au niveau de la politique de l'établissement, est-ce qu'on fait, alors je vais parler très technique, des fiches actions, hein, comment on accueille une famille, qui c'est qui s'en charge, comment ça se passe, voilà, enfin, comment on construit ensemble ces éléments-là. La formation initiale sur l'accueil des nouveaux arrivants, des gens du voyage, mais plus largement sur la place de la langue, sur la place de la variation linguistique, sur la rencontre interculturelle, il n'y a rien. En formation continue, il n'y a pas grand-chose. Donc, à mon avis, il y a un travail à mener de lobbying au niveau des d'AFPEN, enfin au niveau de tous les secteurs de la formation, pour avoir le droit d'avoir 2 jours de stage d'établissement. Ou les enseignants spécifiques, ou des membres du CASNAV, des IEN concernés, d'autres personnes qui sont disponibles pour venir, universitaires, pas universitaires, mais qui sont des personnes ressources, viennent aider les établissements à construire leur propre réponse à la situation. Et leur propre manière de faire. On a bien vu que les situations sont extrêmement différentes, les contextes sont différents. On ne peut pas dire, et on le voit bien, moi je dis, voilà, en Indre-et-Loire, voilà comment ça se passe, c'est super, ça marche bien. Oui, donc faites pareil. Non, c'est pas possible. Même si je suis convaincue que ce qui est fait dans l'Indre-et-Loire, c'est très bien, ça marche bien. Dans l'Indre-et-Loire, avec l'histoire, avec la manière dont ça s'est construit. Ailleurs, on a vu dans des établissements, alors c'est vrai, je te rejoins Marie-Odile sur le fait que dans les ZEP, enfin dans les zones où il y a une grande diversité ou dimension éclair ou autre, il y a un vrai sens, souvent, une culture de l'accueil, une culture autour de la diversité. Mais j'ai vu aussi des enseignants, comme le prof d'art plastique dont vous parliez tout à l'heure, hein, même en ZEP. Et des enseignants qui revendiquent leur conviction d'égalitarisme en disant « Attends, je suis en ZEP, le meilleur moyen de les accompagner à la réussite pour tous, c'est de faire comme s'ils étaient tous pareils. Mmh, » Et j'ai entendu ce discours-là, et je continue à l'entendre, je l'ai entendu en tant que praticienne, et je l'entends à nouveau en tant que chercheur.
Mais scientifiquement, ça ne tient pas debout sur le, dans le cadre de l'apprentissage d'une langue.
Bien sûr que ça ne tient pas debout.
D'accord.
Mais ça ne tient pas debout. Évidemment que ça ne tient pas debout.
Non, mais il faut le dire.
Oui. Ça ne tient pas debout.
Voilà.
De toute façon, alors il y avait une image extrêmement sympa que Emmanuel Huvert m'avait transmise. Et puis, je vais essayer de vous projeter mentalement dans une image mentale. Voilà. Vous voyez, aligné, un chimpanzé, un éléphant. Voilà. Vous connaissez. Voilà. Donc, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc des animaux variés, une grenouille, un singe, un chimpanzé, un éléphant, un serpent, et puis un monsieur installé à son bureau et qui dit égalité pour tous, le premier qui est en haut du cocotier a gagné. Voilà. Alors, je ne sais pas, c'est un peu compliqué, puis alors ça casse tout l'effet visuel de évidemment. Mais vous imaginez bien qu'effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce que là, on est dans une situation d'égalité ? Et est-ce que la question de l'équité ne se pose pas ? C'est-à-dire comment on peut accompagner de manière, alors pas seulement quantitative, c'est pas donner plus à ceux qui auraient moins, parce que sinon les ZEP auraient super bien marché, hein, mais c'est comment faire autrement pour qu'ils y arrivent quand même à peu près tous. Donc, cette question-là, à mon avis, elle est extrêmement posée dans les établissements, même les mieux préparés, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une individualité ou d'une histoire particulière qui fait qu'à un moment, l'adhésion n'est pas automatique et elle peut être d'ailleurs extrêmement argumentée d'un point de vue philosophique, idéologique et parfois didactique.
Un témoignage court, parce que je sais que ventre vide n'a pas d'oreille. C'est lors d'une formation dispensée par les collègues de l'Université de Saint-Étienne, on nous a montré quelque chose qui, dans l'intégration, la prise en charge de la diversité, surtout culturelle, à l'intérieur d'une classe ordinaire. La collègue du primaire de classe qui avait en charge la classe ordinaire invitait les parents à venir ou raconter un conte en langue d'origine, ou bien présenter des objets culturels, et à chaque fois, elle faisait compter les élèves de 1 à 10. Donc, ce qui permettait la facilitation, ce qui facilitait l'intégration du gamin, et ça permettait aux autres aussi de prendre en charge la diversité, justement, linguistique et culturelle de l'élève. Voilà, c'est juste un témoignage.
Oui, sur cette question-là, puis après... C'est vrai que on est presque tous convaincus, hein, que plus on laisse la place à la langue de l'enfant, aux langues de l'enfant, à ce qu'il est en dehors de l'école, moins on introduit de ruptures et de conflits de loyauté, plus ça sert l'appropriation de la langue française, la réussite en France. D'un point de vue linguistique, sociolinguistique, on sait que mieux on connaît plusieurs langues, plus on développe de capacités métalinguistiques et mieux on est en capacité d'apprendre de nouvelles langues. Et qu'il n'y a pas de bilinguisme soustractif où quand tu parles kabyle et français, t'as pas de chance dans la vie, alors que quand tu parles français et anglais, alors là, t'es promis un brillant avenir. On sait très bien que ça n'a pas de validité scientifique. Nous le savons parce que nous sommes préoccupés de cela. Mais il faut savoir que les enseignants ne le savent pas tous. Certains enseignants disent encore et encore aujourd'hui aux parents « Vous devez leur parler français à la maison. Je ne peux pas accepter la langue ou les langues de l'enfant à l'école parce qu'ici, on est là pour apprendre le français. » Et non, ce n'est pas vrai que ça sert. Et s'il veut aller apprendre le portugais ou le turc ou l'arabe, ça va parasiter son appropriation de la langue, voire d'autres langues vivantes, et les parents relayent aussi ce discours-là. Nous le savons parce que nous sommes préoccupés de ces questions-là, mais tous les enseignants ne le savent pas, doivent déconstruire leur représentation, parce qu'ils savent, il suffit pas de leur dire, il faut qu'ils puissent déconstruire leur représentation pour accueillir une autre manière de penser, et parfois les parents aussi, parce que les parents disent non, hein, tu parles pas, parce que sinon non tu vas pas aller apprendre le portugais, parce que bon, faut que j'arrête, parce que sinon les autres ils parlent pas.
Je renvoie juste au film qui s'appelle La langue de Zara, que j'ai pu envoyer à un certain nombre d'entre vous, qui était projeté au festival d'Evreux, festival du film d'éducation, de Fatima Sissani, et qui raconte l'histoire d'une dame qui est arrivée de Kabylie dans les années 50 avec la certitude qu'elle n'apprendrait pas le français. Et elle n'a jamais parlé français. Elle ne parle toujours pas français aujourd'hui. Elle a 80 et quelques années. Et c'est l'histoire de cette migration aussi linguistique, mais aussi d'une transmission à l'intérieur de la famille auprès de ses enfants et de ses petits-enfants. Et comment ça s'est construit sans drame, j'allais dire, mais en étant conscient de l'importance de cette langue maternelle et de l'importance de la transmettre, et puis après, de l'appropriation par les enfants et des petits-enfants dans un contexte francophone, et forcément, ça a donné autre chose. Je ferme ma parenthèse. Le film est toujours... on peut le voir en ligne jusqu'à vendredi soir.
Il y avait quelqu'un qui voulait... Non, Maryse, tu veux réagir à Cécile?
Non, réagir très vite. Simplement, je voudrais qu'on distingue bien deux niveaux. C'est-à-dire le niveau de formation initiale des enseignants, qui va de celui des futurs ESP, où il est effectivement bon qu'apparaissent dans la mire des choses sur les connaissances des langues et cultures, des connaissances de la langue française, sur l'interculturel. Et dans un second temps, une fois que cette première sensibilisation est produite, ce qui marche, là je peux vous le dire d'expérience, c'est-à-dire ce qui est efficace, c'est de se centrer sur des élèves réels et pas sur des élèves fictionnels, hein, et de lier en établissement ou en école, suivant les cas, c'est ce à quoi nous nous efforçons, l'analyse directe de la situation à l'information et la formation de l'équipe. Ça marche. Voilà. Mais encore, ça marcherait d'autant mieux si on avait posé avant une culture générale des langues et cultures dans le système, hein, tout simplement. Voilà, c'est tout.
Oui, je voulais juste dire ce dont vous parlez, en fait, c'est une liberté pédagogique qui est à l'œuvre tous les jours dans nos classes, mais qui, pour encore beaucoup de collègues de classe ordinaire, constitue un véritable choc culturel. La place de la langue maternelle, la comparaison des différentes langues dans les classes ordinaires. Moi, je sais que je fais cours porte ouverte et vraiment, on me dit, mais quid de l'égalité républicaine, il faut que tu enseignes le français, tu dois n'enseigner que le français et qu'on écrit dans toutes les langues au tableau, et que pour beaucoup de collègues, c'est encore une mise en danger. La liberté pédagogique, c'est une mise en péril pour beaucoup de nos collègues.
C'est pas une histoire de liberté pédagogique. Hein.
De sortie des carcans, de positions didactiques, etc., qu'on nous a inculquées en formation initiale.
Non. Là, sur la didactique des langues des cultures, vous êtes en pleine orthodoxie, là. Oui.
Pas si on remet ça en comparaison avec notre formation initiale, parce que précisément, on n'en a pas eu. En
sur
fait.
Le français langue seconde, vous avez la bénédiction de l'institution, voilà. Allez-y, joyeusement.
Voilà, mais cette bénédiction n'est pas forcément su de nos collègues.
C'est tout à fait vrai, parce que j'ai une doctorante qui travaille sur ces questions-là, et elle montre comment l'école française est prise dans la tension entre... unité et diversité d'un côté, avec une forme de monolinguisme, c'est-à-dire le français serait la langue d'homogénéisation et d'unité de l'école, notamment, mais aussi plus largement de la République, et puis en même temps, donc une tension, voire un paradoxe, l'attention vers la reconnaissance de la diversité, l'accueil de la diversité comme richesse, moi j'aime pas ce terme, mais comme ressource, parce que c'est pas une richesse en soi, ça dépend ce qu'on en fait. Enfin, c'est pas parce que les gens sont plurilingues que c'est forcément intéressant. Si on n'en fait rien, c'est pas intéressant. Donc, mais comme ressource, et que l'école et les acteurs de l'école sont toujours dans cette tension. Même les enseignants de FLS se sentent pas toujours très autorisés à se dire, ben voilà, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à l'enseignement du français. Si, en plus, j'ai entendu ça dans le cadre de mes recherches, auprès de gens dont on peut absolument pas soupçonner qu'ils seraient mal intentionnés, hein, mais qui disent, attends, je les ai 4-5 heures dans la semaine, Si je me mets à faire de la didactique du plurilinguisme, comme Nathalie Auger le propose, comme je le propose aussi, attends, j'ai déjà pas assez de temps pour leur apprendre le français. Enfin, c'est compliqué.
Oui, ou qui force des parents à absolument venir à l'école pour montrer combien ils sont investis, alors que culturellement, ils ont envie de déléguer à l'institution par respect pour l'institution, et qu'on force des parents à venir alors qu'ils n'en ont pas envie, et qu'ils n'en sont parfois pas capables, pas désireux.
Ou qui vont refuser de recevoir le grand frère ou la grande sœur parce que ce n'est pas le parent. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où il faut le faire. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je l'ai publié aussi. Il y a des moments où ce sont les parents qui doivent assumer leur responsabilité de parents. Mais il y a des moments de solidarité familiale, il y a des moments d'organisation familiale par rapport à l'institution scolaire qui sont à respecter. On peut les amener à les modifier, mais en tout cas, elles sont à respecter. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut aussi faire entrer dans la formation, pas uniquement des collègues de classe ordinaire. Hein, on est bien d'accord.
Avec des points de vigilance, pareil, je vais avoir mon rôle de... C'est qu'à l'inverse, au nom de la diversité, il y a eu des assignations culturelles et linguistiques. Et donc, là aussi... C'est pour ça que la formation, elle n'est pas inutile. C'est-à-dire que l'assignation linguistique ou l'assignation culturelle, les enfants, on les connaît surtout à l'âge adolescent, ils n'ont pas tous envie au même moment d'afficher un certain nombre de choses. Donc c'est plutôt des propositions, des ouvertures qu'on peut faire à un certain moment pour certains. Que l'obligation... Alors, il y avait l'obligation, il faut parler français à la maison et parler que français à l'école, etc. Maintenant, on n'est pas obligé d'afficher tout son plurilinguisme ou son histoire de vie, de biographie, etc.
Tu voulais réagir ?
Mais toute cette question passe de toute façon par une compréhension fine de l'écosystème linguistique qui est en jeu dans ce cadre, c'est-à-dire l'accueil des élèves allophones, et vous l'avez compris au sens large, pas seulement arrivant, puisqu'on nous demande toujours d'intervenir sur des Turcs des vallées profondes que je vous ai montré hier, des enfants turcs qui seraient redevenus primo-arrivants alors que les gamins sont nés en France. Mais effectivement, vous avez une question de formation de nos collègues de la maternelle sur une didactique du français comme langue vivante, vu que elles sont occupées déjà à les préparer à l'écrit et à cette forme-là de français. Donc éclairer l'écosystème linguistique, pour reprendre tes termes, et qui font référence aussi à l'éco-formation de Mirna Montenegro en 2004 sur les enfants roms et tziganes. Elle a publié dans le 159. Elle nous a apporté cette idée d'analyser tout le système en même temps, et le système linguistique en particulier. Et donc on ne fera pas l'économie aussi de penser quelle est notre langue d'enseignement en tant que langue vivante. Qu'est-ce qui a fait que les gamins passent des heures à gratter, alors que dans d'autres systèmes éducatifs plus performants, les enfants ont d'autres contraintes, mais ou d'autres systèmes de sélection, mais en tout cas passent pas leur vie à remplir des cahiers, ou que quand on fait un CAP vente, on est en train d'étudier des dialogues écrits, on doit les lire, on doit se les mettre dans la tête et reconnaître qui est le bon vendeur et qui est le mauvais vendeur dans des logiques de vente, alors que il existe aujourd'hui du document en vidéo, du document audio, enfin toute une palette pour approcher les différentes compétences linguistiques et autrement que par l'axe et l'angle écrit. Mmh. Et puis l'angle public aussi, alors effectivement, il y a des endroits où la concentration fait que, et où la question n'a pas été posée avant concrètement dans l'institution scolaire en général, et donc on met en place des projets d'urgence qui peuvent être des projets européens, mais qui concernent clairement et qui sont étiquetés par exemple Rome Tzigane, hein, à certains endroits. En tout cas, le financement est obtenu par ce biais là et pas par élèves en difficulté, je suppose, hein. Mais en tout cas, c'est un vrai souci, c'est-à-dire on en est maintenant à mettre en place des dispositifs d'urgence sur des mouvements qui sont extrêmement anciens et extrêmement longs, mais que l'institution ne pouvait pas penser. Elle n'est pas dans une position linguistique de penser l'altérité, de penser le monde en fait tel qu'il est en train de se jouer actuellement.
Je voulais juste reprendre l'idée dont tu parlais des outils linguistiques et notamment de la place de la langue écrite, notamment par rapport aux évaluations. Je repense à ce qu'on a dit hier. On a beaucoup travaillé sur la question de l'évaluation par l'oral de compétences, par exemple linguistiques. Hein. C'est-à-dire que les enseignants de classe ordinaire n'avaient pas pensé possible d'évaluer d'enseigner. Une compétence voilà, d'enseigner, déjà, par exemple, la poésie. Enfin, je donne souvent cet exemple-là, où un enseignant me dit « Mais enfin, tu comprends, il devrait quand même pouvoir apprendre la poésie. » Je lui dis « Oui, mais comment ?» Ben, c'est dans son cahier. Elle n'avait pas pensé qu'on pouvait enregistrer la poésie, qu'il la mémorise à l'oral, et qu'effectivement, il puisse la redire. De la même manière, travailler la conjugaison, bien sûr, il y a les terminaisons, la manière dont ça s'écrit, mais il y a aussi la conjugaison en langue orale. On peut aussi évaluer la conjugaison à l'oral en enregistrant un enfant discrètement dans le fond de la classe pour ne pas gêner les autres ou à côté, plutôt que de lui demander de l'écrire parce qu'il peut avoir compris comment on conjugue à l'oral et ne pas savoir l'écrire parce qu'il est peu littéracier. Donc, juste, c'est un aparté aussi. On n'est pas au fond du problème, mais on est quand même sur la question de la formation, c'est-à-dire déconstruire des outils qui sont... Enfin, penser que les outils didactiques, les outils cognitifs, la manière dont on rend accessible le savoir et la manière dont on veut en rendre compte dans les évaluations doivent être plus familiers des enfants que des enseignants. Or, les enseignants pensent ce qui leur est le plus facile pour eux, la plupart du temps, pas toujours, pas dans tous les contextes, mais déconstruire ces éléments-là, où par exemple, la conjugaison, il y a deux niveaux de maîtrise de la conjugaison, dont une orale et que celle-ci, on peut peut-être l'évaluer d'une manière qui n'est pas effectivement la manière traditionnelle. Donc, cette formation au travail aussi didactique lié aux spécificités des enfants doit être prise en compte.